Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
Bonjour Fabienne.
Ravie de vous accueillir dans cette édition de la mi-journée, une édition en grande partie consacrée à la disparition du compositeur Michel Legrand, trois fois oscarisé avec des airs qui nous ont tous bercés, les Parapluies de Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort, les Moulins de mon cœur. Nous retracerons le parcours exceptionnel de celui qui vient de nous quitter à l'âge de 86 ans. Le directeur du Théâtre Marigny, où se joue Peau d'Âne, sera mon invité et vous entendrez la réaction très émue de son ami, l'écrivain Didier Van Kovelaert. Dans le reste de l'actualité, l'acte 11 des Gilets jaunes, manifestation dans le calme à Paris pour l'instant, entre les Champs-Élysées et Bercy, la fin du shutdown aux États-Unis, la paralysie aura duré 35 jours, le journal des sports et les handballeurs français privés de finale au championnat du monde, enfin la météo, les trois quarts du pays privés de soleil.
Europe 1.
C'est donc cette nuit, à son domicile, avec à ses côtés sa femme, la comédienne Macha Merrill, que Michel Legrand s'est éteint à l'âge de 86 ans.
Quand j'étais très jeune, je me suis dit, en faisant mes études de conservatoire, je me suis dit, ce qui serait génial, c'est que je puisse m'amuser avec tout ce qui concerne la musique. C'est-à-dire la musique au cinéma, la musique au théâtre, la musique sur scène, la musique en radio, la musique en télé, la musique classique, la musique de jazz, la musique, il faudrait que je joue, il faudrait que je chante, il faudrait que je dirige. C'est toute ma vie. Sans la musique, je me demande qu'est-ce que je ferais sur cette planète.
Mon amour, je t'attendrai toute ma vie.
Les Parapluies de Cherbourg avec Michel Legrand, indissociable de tous les films de Jacques Demy. On pense bien sûr aux Demoiselles de Rochefort, Peau d'Âne, avec moi en studio Thierry Geffrotin. Bonjour Thierry.
Bonjour Fabienne.
Quand on entend cette musique qui paraît comme ça si facile, il ne faut surtout pas oublier l'incroyable musicien et compositeur de génie qui se cache derrière Thierry Geffrotin.
Ouais, imaginez un petit garçon haut comme trois pommes, allez on va dire trois pommes et demie. Il a 9 ans et par dérogation spéciale, il vient d'entrer au Conservatoire de Paris. Eh bien, il s'appelle Michel Legrand, évidemment. Il est déjà pianiste et au terme de 9 années passées dans le sein des saints de la musique classique, il ressort couvert de diplômes. Formation classique donc, mais le jazz aussi qui coule dans ses veines. I Love Paris, son premier disque en 1954, il a donc 22 ans, fait un véritable tabac. Classique, jazz, variété, Michel Legrand aime tous les styles de musique, ou plutôt il se fond dans tous les genres, doué, évidemment, je pense qu'on peut même parler de prodige, et travailleur acharné. Écoutez plutôt cet archive qui figure dans un coffret édité chez Universal. On entend Michel Legrand chercher la mélodie du duo des Demoiselles de Rochefort.
Deux heures, je m'étais sous le signe des Gémeaux. Nous sommes deux sœurs jumelles.
Michel Legrand et Jacques Demy, Michel Legrand et la Nouvelle Vague, et une carrière aux États-Unis qui lui vaut 3 Oscars. Tout d'abord pour Un été 42 en 1972. Couronné aussi par Hollywood pour la musique de Yentl en 1984.
Looking at the skies, I seem to see a million eyes, which ones are...
Et un troisième Oscar, le premier chronologiquement, celui de la meilleure chanson pour les Moulins de mon cœur du film L'affaire Thomas Crown.
Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel.
Michel Legrand, 200 musiques de films, mais ce n'est pas tout. Hein. Il a aussi composé pour la télévision. Vous vous souvenez peut-être de Oum le Dauphin, où il était une fois à l'espace. Pour les salles de concert aussi, la musique, on va dire, classique. Pour la scène, l'une des dernières grandes joies de Michel Legrand aura été sans conteste l'adaptation de Peau d'Âne en comédie musicale, en féerie musicale. C'est d'ailleurs encore à l'affiche au Théâtre Marigny à Paris. Il avait été ovationné le soir de la première. Michel Legrand qui aimait à dire « J'ai le feu sacré, la musique me tient debout ». Et la musique l'aura en effet tenu debout jusqu'à la fin, jusqu'à l'ultime note de son immense partition.
Merci beaucoup Thierry Geffrotin pour ce très bel hommage à Michel Legrand et ses musiques inoubliables. On vous retrouvera d'ailleurs dans Tout Terrain pour revivre les ultimes répétitions de la comédie musicale Peau d'Âne. Beaucoup de réactions, je le disais depuis ce matin. Michel Legrand est immortel, dit le compositeur Vladimir Cosma. Écoutez, la réaction de l'écrivain Didier Van Kovelaert. Il avait travaillé avec Michel Legrand. Le compositeur avait accepté de mettre en musique son livre Passe-Muraille pour en faire une comédie musicale. Il avait dîné avec lui il y a à peine 15 jours et il ne réalise toujours pas que Michel Legrand n'est plus là.
C'est une incrédulité complète parce que Michel Legrand a une telle énergie que
ne peut pas être associé à la mort, à l'absence. Mais il parlait de l'avenir comme s'il avait la vie devant lui encore. Il y avait une impatience. Michel a toujours eu une impatience d'adolescent. Il n'y a que le travail dans l'enthousiasme avec les amis. Travailler avec Michel, c'était une fête incroyable. Je me souviens un jour, on travaillait sur notre opéra Dreyfus et on avait acheté un homard pour le déjeuner. Et on travaillait et tout à coup, Michel me dit « Amenons-le pendant qu'on joue ». Et on a amené la marmite et on a joué et chanté devant lui. Voilà, ça c'était tout Michel. C'est la vie, c'est-à-dire toutes les formes de la vie, avec en même temps une manière d'apprivoiser la mort et même de demander pardon au homard qu'on allait déguster. Ils ont joué un peu de musique dont il a eu la primeur avant de partir.
L'écrivain Didier Van Kovelaert avec Roman Hockey à 12h45. Jean-Luc Schloplein, directeur du Théâtre Marigny où se joue la comédie musicale Podane pour laquelle Thierry Geffrotin nous le dit à l'instant, Michel Legrand avait spécialement composé de nouvelles musiques. Jean-Luc Schloplein sera mon invité. Et puis notez qu'Europe 1 rend hommage à Michel Legrand toute la journée. Rediffusion à 17h du grand entretien qu'il avait accordé à Jean-Philippe Ballas et Émilie Mazoyer dans Europe 1 Music Club. C'était en mars 2017.
Europe 1 12h36, la suite du journal Fabienne Lemoyle.
L'acte 11 des Gilets jaunes avec plusieurs rassemblements prévus à travers toute la France. 4 autorisés rien qu'à Paris. Première manifestation dans la capitale ce matin. C'est un cortège qui est parti des Champs-Élysées pour rejoindre Bercy. On vous retrouve Hélène Terzian sur le parcours. Pour l'instant Hélène, ça se passe dans le calme avec des rangs plutôt clairsemés.
Exactement Fabienne, le cortège est parti il y a maintenant une demi-heure hein, depuis la place de l'Étoile. Il se trouve maintenant à hauteur de l'avenue Montaigne après avoir été bloqué quelques temps au niveau du rond-point des Champs-Élysées. Quelques centaines de gilets jaunes en tout cas a défilé pour cet acte 11 et cette fois en plus de leur défiance à l'égard du gouvernement, eh bien ils sont nombreux comme Frédéric à dénoncer la liste des gilets jaunes aux européennes.
Et aujourd'hui on est également là pour montrer notre mécontentement contre cette liste qui ne nous représente pas du tout. C'est pas des gens du peuple. On nous le vole. Ce qu'on veut tous, c'est le RIC. C'est pouvoir décider, que le peuple décide pour le peuple. Et en fait, comme par hasard, cette liste, leur nom, c'est le RIC. Donc est-ce que c'est pas pour que dans la tête des gens qui sont derrière leur écran, que ça porte à confusion ?
Un acte 11 marqué également par de nouvelles formes de mobilisation. Dans le cortège, certains gilets jaunes, comme Karine que j'ai rencontrée, comptent bien participer tout à l'heure à la nuit jaune, dont le point de rassemblement est prévu ce soir, place de la République.
Parce que c'est inédit quand même. On n'a jamais vu ça. Ce sera des débats, on échangera. Donc c'était juste pour innover et faire quelque chose d'un petit peu de nouveau, c'est tout. Montrer que voilà, maintenant c'est jour, nuit, pourquoi pas partir sur aussi de la nuit pour se faire entendre et surtout pour montrer qu'il y a du monde et qu'on sera là de toute façon, on ne lâchera pas.
Alors pour le moment, ce cortège entouré d'un important dispositif de sécurité se dirige donc vers la Bastille en passant par l'Assemblée nationale et le ministère de l'économie et des finances à Bercy.
Hélène Terzian entre les Champs-Élysées et Bercy à Paris. Alors cet acte 11 se déroule alors que des réunions citoyennes se sont multipliées ces derniers jours pour nourrir le grand débat national. Après Emmanuel Macron dans la Drôme, c'était au tour d'Édouard Philippe de s'être invité à une réunion. C'était hier soir à Sartrouville en région parisienne. Aurélie Herbemont était sur place.
Édouard Philippe fait son entrée à 21h. Applaudissements et huées se mêlent. Pendant 1h30, il écoute et prend des notes entre critiques des élus, des impôts et chamaillerie sur l'Europe. Ce chômeur cible Emmanuel Macron.
On se retrouve avec un président qui, sans le moindre complexe, vient nous expliquer que si on est dans la merde, c'est parce que soi-disant on déconne.
Puis c'est un gilet jaune qui prend le micro.
Pourquoi mettre la CSG aux retraités ? Vous êtes là à le taxer. C'est un truc de fou quand même.
Dans ce débat où chacun donne son avis, Édouard Philippe donne le sien sur le référendum d'initiative citoyenne.
Le RIC, il me hérisse. Je ne suis pas pour. Ça ne veut pas dire que je suis contre le référendum. Hein. Mais je ne suis pas pour le RIC tel qu'il est souvent présenté.
À 23h30 passé, il est temps de se quitter après un débat passionné.
C'est la gloire d'un pays de pouvoir échanger. Je ne me suis pas fait engueuler ce soir. Non ? C'est vachement respectueux quand même. On peut parler.
Des applaudissements dans la salle, des quolibets à l'extérieur. Ce qui n'empêchera pas Édouard Philippe de faire 2 ou 3 débats par semaine.
Aurélie Herbemont à Sartrouville hier soir pour Europe 1. À suivre, la fin de la paralysie de l'administration américaine. Donald Trump a signé hier soir l'accord qui a permis de mettre fin au plus long shutdown de l'histoire des États-Unis.
Et un rendez-vous à noter, Fabienne, celui que nous donne Isabelle Morizet à 15h cet après-midi. Elle s'entretiendra une heure durant avec la comédienne, actrice et productrice Julie Gayet, actuellement à l'affiche du Théâtre des Bouffes parisiens dans une pièce qui a valu à son auteur le prix Pulitzer en 2007, Rabbit Hole, univers parallèle. Une heure en compagnie de Julie Gayet, c'est aujourd'hui à 15h sur Europe 1. La suite du journal, Fabienne Lemoyle.
La paralysie de l'administration américaine aura duré plus d'un mois, un record dans l'histoire des États-Unis. Donald Trump restait arc-bouté sur son chèque de plusieurs milliards pour construire son mur à la frontière mexicaine. Changement de ton hier, le président américain a finalement accepté ce que les démocrates exigeaient depuis des semaines, mettre fin au shutdown préalable à toute reprise des discussions sur les mesures pour contrôler l'immigration clandestine aux États-Unis. Correspondance de Xavier Yvon.
Tout ça, pour ça. 35 jours de shutdown, des fonctionnaires obligés d'aller aux distributions d'aide alimentaire, le trafic aérien perturbé, tout ça pour que Donald Trump signe finalement un texte qu'il aurait pu paraffer il y a 35 jours. Le président refusait catégoriquement de rouvrir l'administration tant qu'il n'aurait pas l'argent pour construire son mur à la frontière mexicaine. Eh bien, la loi signée hier prévoit $0 pour le mur. Donald Trump a en fait fini par accepter les conditions posées par les démocrates dès le début. On finance provisoirement l'administration et ensuite on négocie l'argent pour le mur. Même s'il s'en défend, Donald Trump a cédé et le chef des démocrates au Sénat peut prendre son ton triomphant. Nous espérons que le président aura retenu la leçon, a dit Chuck Schumer. On ne peut pas prendre les travailleurs américains en otage. À la droite de Donald Trump, les ultra-conservateurs, eux, sont furieux, comme Ann Coulter, une éditorialiste qui se vante d'être une conseillère occulte du président. Hier, sur Twitter, elle a traité Donald Trump de mauviette. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
En Espagne, les recherches pour retrouver un enfant de 2 ans tombé dans un puits en Andalousie auront duré 13 jours. Épilogue terrible cette nuit avec l'annonce de la découverte du corps sans vie du petit garçon. Et Henri de la Guérie, c'est tout le pays qui est en deuil ce matin.
Ben oui, parce que cette tragédie familiale, cet accident exceptionnel est rapidement devenu une tragédie nationale. Pendant près de 2 semaines, les Espagnols ont suivi dans les moindres détails cette opération de sauvetage hors normes qui aura mobilisé 300 personnes. Une opération complexe, retransmise en direct à la télé. Les possibilités de retrouver le petit Julen en vie étaient infimes, pour ne pas dire inexistantes. Le puits mesure 100 mètres de profondeur, mais on a voulu croire à un miracle ici. Le préfet d'Andalousie, Alfonso Rodriguez, a rendu hommage ce matin aux sauveteurs, dont des mineurs d'élite qui ont découvert le corps sans vie à 1h30 du matin.
L'Espagne est un grand pays, les Espagnols sont un grand peuple. La détermination, l'incroyable capacité à affronter une situation de cette envergure me font dire que malgré ce malheur qui nous touche, nous pouvons être très fiers de nos secouristes et de nos techniciens. Ils ont tous été vraiment à la hauteur.
Voilà, 3 jours de deuil seront observés en Andalousie. Les enquêteurs devront maintenant déterminer les circonstances du drame. Le puits avait été creusé illégalement. C'est une pratique courante en Espagne et ce puits n'était pas signalé.
Henri de la Guérie, correspondant d'Europe 1 en Espagne.
Le journal des sports.
Avec Cyril de la Moridry. Bonjour Cyril.
Bonjour.
On commence avec du football, 22e journée de Ligue 1 et soirée cauchemardesque pour l'Olympique de Marseille.
Oui, une défaite contre Lille, 2-1, mais aussi un expulsé, Florian Thauvin, et surtout un climat extrêmement tendu pendant la rencontre. Ça a commencé par une grève des supporters et ça s'est poursuivi par un jet de projectile. Le match a été interrompu pendant 40 minutes. Un pétard lancé des tribunes a explosé à quelques centimètres du défenseur marseillais, Jordan Amavi.
Qui râle, qui nous crache dessus parce qu'on n'est pas bon, d'accord, c'est une chose. Mais après, de recevoir ça, c'en est une autre. C'est dommage.
C'est comme ça, c'est le vélodrome, on sait comment ça se passe. Après, voilà, ça explose à côté de mon pied, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si on n'est pas positif, il n'y a personne qui le sera pour nous. C'est ça, donc voilà, faut pas baisser la tête. Faut aller de l'avant, faut continuer à bosser, c'est tout. Il n'y a que ça à faire.
Heureusement, il n'y a pas de blessés. L'Olympique de Marseille risque gros, en tout cas, une suspension de terrain et une amende. Au classement, Marseille est relégué à 12 points de Lille et se classe désormais en 7e position. La seule bonne nouvelle de la soirée, c'est le but de la nouvelle recrue, Mario Balotelli, en toute fin de rencontre.
La 22e journée de Ligue 1, elle se poursuit ce soir avec un multiplex à suivre dès 20h sur Europe 1.
Strasbourg accueille Bordeaux, Nice sera opposé à Nîmes, Guingamp accueillera le Stade de Reims, Monaco se déplacera à Dijon. Les Monégasques seront dirigés ce soir par Franck Passy qui assure l'intérim. Leonardo Jardim, nommé 3 mois et demi seulement après avoir été limogé, devrait être en tribune en simple observateur. Sur les réseaux sociaux, l'ex-entraîneur Thierry Henry espère sincèrement que son successeur parviendra à sortir l'équipe monégasque de cette situation.
Tennis à Melbourne en Australie avec le succès il y a quelques minutes dans la finale dame de la japonaise Osaka.
Oui, et deuxième titre d'affilée en grand chelem pour Osaka qui s'impose en 3 manches face à la tchèque Kvitova, 7-6, 5-7, 6-4. Christophe Taureau, vous êtes en direct de Melbourne.
Oui, absolument. Naomi Osaka, nouvelle championne à l'Open d'Australie au terme d'un match totalement indécis de 2h27 face à Petra Kvitova, 6e mondiale. Un match d'un niveau absolument sensationnel, hein, émaillé de 66 coups gagnants. Un match où Osaka a su oublier 3 balles de match envolées dans la 2e manche pour retrouver ses esprits après avoir même séché 2-3 petites larmes. Un scénario qui en dit long sur sa force de caractère à seulement 21 ans. Naomi Osaka, vous ne la connaissez peut-être pas encore très bien. Elle s'était révélée l'an passé avec sa victoire surprise à l'US Open où elle avait battu Serena Williams en finale. Osaka était devenue à cette occasion la première japonaise à remporter un titre du Grand Chelem. Elle fait donc coup double dès le tournoi du Grand Chelem suivant, une performance qui en dit long sur ses qualités.
Et demain, la finale homme opposera Rafael Nadal à Novak Djokovic.
Un mot de handball avec l'équipe de France qui ne disputera pas la finale du mondial et pour cause.
Oui, les Bleus n'ont rien pu faire face à des Danois éblouissants, défaite 38-30. Il faudra se reprendre demain pour la médaille de bronze qui se disputera donc entre la France et l'Allemagne. D'un mot pour terminer, le rallye de Monte-Carlo, le sextuple champion du monde Sébastien Ogier accroît son avance en tête de la course et devant son rival belge Thierry Neuville.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Il nous reste à voir le temps de ce samedi et vous nous le confirmez Valérie Darmon, aucune chance de voir le soleil sur les 3/4 de la France.
Absolument Fabienne, toute la façade ouest, le nord, la région parisienne, le centre jusqu'au midi toulousain et les Landes restent sous les nuages avec peu ou pas de pluie. Mais l'ambiance, quoique plus douce, est toujours maussade. Le soleil, vous en profitez de Biarritz à Nice et dans l'arrière-pays jusqu'à Tarbes et Montélimar. Les températures de leur côté se radoucissent avec pour maximale 6 par exemple à Aurillac ou encore à Nancy, 8 à Orléans et Lyon, 9 degrés à Paris, 11 à La Rochelle et Cherbourg, 12 degrés à Bordeaux et Toulouse et 15 degrés enfin à Montpellier. Demain, c'est pire qu'aujourd'hui avec beaucoup plus d'agitation entre orages, vent, grésil et neige. D'ailleurs, jusqu'au pourtour méditerranéen, pas la neige, mais les nuages.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Nous allons revenir dans un instant sur la disparition à l'âge de 86 ans de Michel Legrand. C'est pour le Théâtre Marigny qu'il avait fait les arrangements de Podam pour que ce qui était un film devienne une vraie comédie musicale. Jean-Luc Choplin, le directeur du Théâtre Marigny, sera avec nous dans ce studio dans un instant.
12h50, le journal de la mi-journée se poursuit avec vous Fabienne Lemoyle et votre invité.
Et beaucoup de réactions depuis ce matin, depuis l'annonce de la disparition à l'âge de 86 ans du compositeur Michel Legrand. Pour moi, les moulins ne s'arrêteront jamais de tourner, déclaration de Mireille Mathieu, en référence bien sûr à la célèbre chanson qui a valu à Michel Legrand son tout premier Oscar. Une carrière rythmée par des airs qui nous trottent tous dans la tête forcément, les parapluies de Cherbourg, les demoiselles de Rochefort et bien sûr Podane. Avec moi en studio, Jean-Luc Choplin, directeur du Théâtre Marigny. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce midi pour évoquer l'incroyable carrière de ce compositeur, allez, on va le dire, de génie. C'est pour votre théâtre qu'il avait accepté de composer de nouvelles musiques pour faire de Podane une vraie comédie musicale. On va le rappeler, au départ c'était un film. J'imagine la joie pour lui en novembre dernier de voir enfin ce spectacle sur scène.
Oui, c'est-à-dire que on est là attrapé par une grosse émotion. Ça fait un an maintenant que je travaille avec Michel Legrand sur cette aventure de Podane. Je suis allé le trouver un jour, après, parce qu'on se connaissait bien, puisque j'avais travaillé avec lui au Théâtre du Châtelet, on avait fait les parapluies de Cherbourg, on avait accueilli un certain nombre de concerts. Et en lui disant, voilà Michel, que diriez-vous si on faisait Podane à la scène.
Et qu'est-ce qu'il a dit ?
Tout de suite, il était prêt. Il était prêt à cette aventure. Et même moi, j'avais quelques questions. Je lui ai dit, mais Michel, peut-être qu'il faudrait refaire un peu de musique, il faudrait réarranger les choses.
Vous y êtes allé pas feutré en vous disant que ça faisait beaucoup de travail.
Oui, en tout cas, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. C'était la création d'une version originale du film, donc adaptée à la scène. Et c'était beaucoup de travail pour lui. Et il a tout de suite accepté en me disant, mais Jean-Luc, oui, on va faire ça. Et puis alors voilà l'idée.
Enthousiaste, comme toujours.
Enthousiaste, avec la volonté d'explorer des des territoires inconnus, notamment celui d'avoir en fosse un orchestre et d'enregistrer un grand orchestre et de synchroniser les deux. Et donc d'avoir tout un challenge, si vous voulez, d'une orchestration pour un petit ensemble et pour le grand ensemble. Grand ensemble qu'il a voulu diriger lui-même et musicien dans la fosse qu'il a choisi lui-même. Il voulait que ce soit ses frères de concert qui soient dans la fosse.
Oui, parce que ce que me racontait Thierry Geoffrotin, qui est aussi avec nous en studio, c'est que, attention, Michel Legrand, quand il maniait la baguette, il était très directif et très ferme dans les répétitions.
C'est une exigence de perfection, de qualité. C'est-à-dire, Michel voulait toujours quelque chose d'inatteignable. Donc, il poussait tout le monde pour obtenir les choses. Et c'était toujours impressionnant de le voir dans le détail.
Qu'est-ce qui vous a marqué, justement ?
Orchestrateur, comment ?
Qu'est-ce qui vous a marqué justement, puisque vous avez assisté en direct à cet accouchement, j'ai envie de dire.
Ah oui, et puis ben, par exemple, je suis allé dans sa maison à la campagne pour travailler avec le metteur en scène. Et ce qui m'a frappé, c'était sa disponibilité pour écouter encore quelqu'un d'autre. Donc le metteur en scène, Emilio Sarri, l'humilité, en disant voilà, il a regardé la maquette, les décors qui lui étaient proposés et le scénario. Est-ce qu'on allait mettre par exemple le cake d'amour dans
cake
l'acte
d'amour.
1 ou dans l'acte 2? Etc. Et Michel était tout le temps prêt à regarder comment il allait pouvoir ajouter là de la musique de scène, comment il pouvait déplacer les choses à tel endroit. Il était dans l'écoute et dans le travail, dans la collaboration.
On va écouter justement cette fameuse musique du cake d'amour.
Il est temps à présent, tandis que vous brassez, de glisser.
Alors là, bien sûr, c'est le film. Hein. C'est pas ce qu'on voit tous les soirs sur scène au Théâtre Marigny. Thierry Geoffrotin,
moi, ce qui est surprenant, mais à chaque fois, moi, ça me fascine, c'est l'orchestration. C'est l'orchestrateur qui était là. On vient d'entendre quatre mesures de la recette du cake d'amour. Il a une patte. Il y a une patte Michel Legrand pour la mélodie. Il travaillait beaucoup. Mais un sens de l'orchestration, c'est assez incroyable. On voit bien que c'est un musicien qui a travaillé au plus près des musiciens de cinéma, bien sûr, et aussi des musiciens qu'on trouve dans une fosse d'orchestre. J'ai une question pour Jean-Luc Chopelin. Vous, avant Marigny, vous avez donc dirigé pendant longtemps le Châtelet. Vous avez programmé les plus grandes comédies musicales et forcément beaucoup de compositeurs américains. Vous le mettez dans le panthéon de ces compositeurs, Michel Legrand ?
Oh oui, pour moi, c'est le Bernstein. Enfin, c'est Bernstein français. Enfin, mais sauf que ces gens ne doivent pas être qualifiés. Français, américains, sont des gens universels. Il a inventé quelque chose d'absolument unique. Rappelons-nous les parapluies de Cherbourg. C'est la première fois qu'une comédie musicale est complètement chantée de A à Z, qu'il n'y a pas une seule parole de dite. Et donc ça, c'est unique.
C'est un opéra, en fait.
Et c'est un opéra, c'est une... N'enfermons pas les choses dans les
raison,
catégories.
Oui.
Je crois que c'est ce que Michel, justement, c'est ce qu'il ne voulait
il
pas.
Il n'aurait
c'est
pas
que,
voulu.
Voilà, qu'on enferme les choses. Non, c'est simplement comme ça, cette idée géniale qu'il a eue de dire, ben voilà, on va raconter cette histoire complètement en musique, d'un bout à l'autre, sans aucune parole.
Vous aviez d'autres projets avec lui, pour Marigny ?
Et oui, on avait parlé de toute une série de choses et d'ailleurs des choses anciennes aussi qu'il avait composées. Et
par exemple,
il a un très beau Monte Cristo et qu'il aurait fallu complètement refaire, revoir, recomposer, retravailler, etc. Parce qu'il avait fait ça dans les années 60, je crois. Donc voilà, des choses comme ça. Et puis il y avait aussi un autre projet très joli sur une histoire de manoir hanté avec une histoire qui se terminait très bien d'ailleurs et qui l'avait envie de reprendre. Donc on était dans la conversation. Et c'est ce qui va le plus manquer, c'est que je ne peux plus maintenant aller lui dire, Michel...
Parce
si
qu'il continuait à changer des choses dans le spectacle en ce moment au Théâtre Marigny.
Non, le spectacle était bouclé depuis le 24 novembre, le spectacle était terminé. Non, il avait travaillé jusque-là, il avait été aux répétitions, il voulait être au premier rang juste derrière le chef d'orchestre pour là montrer sa présence et son énergie. Et puis voilà, ensuite, c'est normal, le spectacle était rodé. Mais c'est maintenant, voilà, on est... laissé orphelin, on est tout seul, mais on a sa musique. Et tous les jours, toute l'équipe, tous les artistes du Théâtre Marigny, bon, voilà, vont célébrer Michel Legrand, mais il va être présent, mais de façon différente.
Merci beaucoup Jean-Luc Chopelin. On imagine l'émotion, je le vois ici avec moi, dans vos yeux, en studio, effectivement. Directeur du Théâtre Marigny, où se joue toujours Peau d'âne. On imagine une représentation très particulière, effectivement, ce soir, Jean-Luc Chopelin.
Ben là, et même à 15h, je me rends là au théâtre pour
partager.
Ouvrir le rideau avec Michel qui n'est plus là.
Merci beaucoup Thierry Giffretin, on écoute cette musique formidable.
Concerto des Demoiselles de Rochefort.
Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Luc Choplin, directeur du Théâtre Marigny, Thierry Giffretin. Nous reviendrons bien sûr dans Tout Terrain, justement avec vous Thierry, sur les ultimes répétitions de Michel Legrand au Théâtre Marigny.
Tout terrain, l'essentiel de l'actu, c'est avec vous Fabienne Lemoyle.
Et on vient de l'évoquer à l'instant, la disparition à l'âge de 86 ans du compositeur Michel Legrand, trois fois oscarisé, c'est cette nuit à son domicile avec à ses côtés sa femme, la comédienne Macha Meryl, qui s'est éteint. Les réactions sont nombreuses, celles du ministre de la Culture, compositeur de génie, son inépuisable talent célébré partout dans le monde, a fait naître tant d'émotions. Voilà ce qu'écrit sur Twitter le ministre de la Culture, Franck Riester. Nous prolongerons cet hommage dans quelques instants dans Tout Terrain. Dans le reste de l'actualité, l'acte 11 des Gilets jaunes. Ils sont près de 150 rassemblés sur les Champs-Élysées à Paris pour l'instant. Manifestation dans le calme en direction de Bercy. Hier soir, Édouard Philippe s'est invité à une réunion citoyenne du Grand Débat National à Sartrouville. Il a essuyé quelques sifflets mais aussi des applaudissements à son arrivée. Enfin, la fin du shutdown aux États-Unis avec Donald Trump qui renonce temporairement à son mur. Shutdown qui aura duré 35 jours, le plus long de l'histoire des États-Unis.
Et vous restez avec nous Fabienne pour notre émission Grand Reportage. Il est 13h, bon week-end avec Europe 1.